L'hôte à l'armoricaine. Une nouvelle écrite par Mervez, à la manière de Marie Lester, avec l'aimable autorisation de Jean Feiler, auteur des enquêtes de Marie Lester. Marie était perplexe. Assise à une table solitaire de la terrasse du restaurant Les Finbecs, sise sur la commune de Piriac, elle contemplait la mer d'un bleu d'opale. Au large, tremblait légèrement la côte basse de l'île du Mai. Marie n'était certes pas très douée en cuisine, mais sa voisine et confidente Amandine Trépon, qui à l'occasion lui tenait lieu de mère nourricière, l'avait habituée aux petits plats. Or, le poisson que l'on venait de lui servir n'avait rien à envier aux succulentes préparations d'Amandine. L'hôte à l'armoricaine, avait annoncé le serveur en déposant devant elle une assiette généreuse. Et en se penchant sur son épaule, il lui avait glissé « un délice !» avec un œil gourmand si insistant que Marie, interloquée, s'était demandé si sa gourmandise allait à la lotte ou à sa jolie cliente. Oui, cette lotte à l'armoricaine était une réussite. Seulement, Marie, qui n'avait pas tout à fait terminé son assiette, jeta un coup d'œil circonspect autour d'elle. La terrasse était presque déserte. Un couple attablé un peu plus loin s'attardait dans une discussion tendre, mais ils n'avaient d'yeux que l'un pour l'autre. Alors, Marie tira de son sac à main un sachet plastique de congélation. Prestement, il glissa ce qui restait dans son assiette et dissimula le dit sachet avec l'échantillon doré chef dans son sac à main, presque à regret. Puis elle héla le serveur, qui s'empressa de venir lui présenter la carte du restaurant avec un zèle qui la fit s'ouvrir intérieurement. Le soleil d'octobre était encore généreux. Marie opta pour un sorbet aux myrtilles. C'était seulement 2 jours auparavant que le patron l'avait convoqué dans son bureau. « Marie, j'ai pour vous une affaire délicate. »« Doublement délicate, » soupira-t-il. Marie savait par expérience qu'il était inutile de poser des questions. Elle attendit. « Voilà, » fit le commissaire divisionnaire Fabien, visiblement satisfait qu'elle se contenta d'écouter ce qu'il avait à lui dire. Une lettre a été envoyée faisant état de fraude alimentaire dans les restaurants, sur fond probable de fausses déclarations de capture d'un certain nombre de pêcheurs du côté du Croisic et de la Turballe. Ce n'était pas de leur ressort d'un point de vue territorial, mais Marie se tint coite et elle fit bien. Évidemment, ce n'est pas de notre ressort. C'est la brigade de gendarmerie de Saint-Nazaire qui a été alertée en premier lieu. Je ne sais comment, mais c'est venu aux oreilles du sous-préfet. Et là, patatras. À l'idée que les gendarmes pourraient mener une enquête dont les résultats mettraient à mal à la fois le monde de la pêche et les restaurateurs locaux, le cher homme a failli faire une attaque. C'est un politique, le sous-préfet. Autant vous dire que la recherche de la vérité, ce n'est pas sa préoccupation première. Il s'est mis en tête que les gendarmes ne sauraient pas traiter l'affaire discrètement et il ne veut pas non plus d'enquêteurs de la police de la région. Il a trop peur des fuites. En fait, c'est cela qui est un peu délicat. Il veut bien de la vérité, à la condition que personne d'autre que lui ne la connaisse. Sa devise à lui, c'est « pas de vague ». Marie ne put en entendre davantage. « Alors on a pensé à moi ? Eh bien, on a eu tort. » « C'est bien ce que je disais. » Et il soupira encore plus fort. « C'est bien ce que je disais, c'est ça surtout qui est délicat. Il va pourtant falloir que vous vous y colliez, Marie. Votre réputation vous poursuit. Une affaire délicate à débrouiller, qui touche au monde de la pêche, l'impérieuse nécessité de rester discret. Jusque-là, vous avez vraiment le profil. Qui imaginerait que la police enverrait une femme enquêter dans ce milieu-là ? Seulement, là Marie comprit que son patron attendait qu'elle finisse elle-même. Seulement, il faut s'engager à ne pas faire de vagues, et là, le profil ne correspond plus trop. C'est bien ce que vous pensez, patron. C'est bien ce que je pense, Marie. Mais vous savez qu'on peut changer de profil, non ? Marie se retint de laisser paraître son amusement. Il était peu probable que le patron soit initié à Facebook. Allons, elle allait essayer de changer de profil, comme il disait. Sinon, elle était bonne pour passer son automne à établir des statistiques pour le ministère. C'est bon, patron, vous avez gagné. Je vais y aller sur cette mission. Alors, de quelle fraude s'agit-il ? Eh bien, voilà. Dans tous les restaurants de la côte, on sert de la lotte, accommodée à toutes les sauces. Seulement voilà, il semblerait que ce ne soit pas toujours de la lotte. Et ce serait du congre, Marie. Du congre, du vulgaire congre. Rapport de 1 à 10 au prix au kilo, une culbute juteuse évidemment. Et personne ne s'en rend compte? Personne qui veuille ouvrir les yeux en tout cas. Sauf l'auteur de notre lettre, dont on ne sait pas très bien s'il s'agit d'un restaurateur concurrent, d'un pêcheur jaloux, d'un intermédiaire, ou seulement d'un convive un peu gourmet. Une lettre anonyme en tout cas. Et sur une lettre anonyme de dénonciation, on ouvre une enquête? Avant d'ouvrir officiellement l'enquête, la brigade de gendarmerie a contacté l'IFREMER. Note de bas de page, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Et là, on lui a confirmé qu'entre les tonnages de pêche annoncés pour la lotte et ce que l'on connaît de l'état de la ressource, il y a plus qu'un écart, une impossibilité. Dites donc, ils s'améliorent les Pandores. S'ils se mettent à réfléchir, on va avoir de la concurrence. Voyons, Marie, voyons. Ils réfléchissent, mais après, ils se taisent. Tout le monde la boucle, c'est bien ça? C'est ça. Jusqu'ici, silence radio, et surtout rien dans la presse, car tout le monde, et les écolos en tête, préfère qu'on floue un peu les touristes, pourvu qu'on pêche du congre sans puiser dans ce qui reste de l'hôte. Mais alors, si tout le monde s'arrange de la situation, si les politiques ne veulent pas ébruiter l'affaire, pourquoi intervenir, patron? À cause de la lettre, soupira encore une fois le divisionnaire, visiblement acquis à la conspiration du silence. Toujours à cause de cette fichue lettre. Son auteur menace, si personne ne fait rien, de contacter Ouest France et l'écho de la presqu'île, preuve à l'appui. Et je vous ai dit, le maître mot du préfet, c'est « pas de vague ». Donc, je dois établir le délit, mais si je comprends bien, on ne sait pas trop ce qu'on en fera. C'est ça, établissez le délit. Et après, on verra bien. Vous le savez aussi bien que moi, nul ne peut prévoir où nous mènera une enquête. Et c'est comme cela que Marie se trouvait en mission, sur la terrasse d'un des restaurants les mieux cotés de Piriac, à déguster un sorbet aux myrtilles. Dans son sac à main, il y avait désormais un échantillon de lotte à l'armoricaine, ou prétendu tel. Cette enquête se présentait d'abord comme une véritable aventure gastronomique. Marie était bien décidée à profiter des aspects les plus sympathiques de cette enquête. Les ennuis viendraient toujours assez tôt. Aussi, elle n'opta pas pour le stacanovisme masochiste qui eût consisté à tester plusieurs restaurants par repas et se contenta d'un établissement le midi et d'un autre le soir. Au bout de 4 ou 5 jours, elle aurait ainsi suffisamment de petits paquets étiquetés à envoyer au labo pour analyse, venant des restos les plus huppés de la Côte d'Amour. Et entre-temps, d'abord, il y avait à compenser par l'exercice physique l'excellente chair prodiguée par cette enquête. Marie n'avait pas besoin de se forcer pour courir chaque matin des potrons minés sur le sentier côtier et pour nager en fin d'après-midi à partir des plages du Croisic, de Piriac ou la Turballe. Mais cela n'occupait pas tout son temps et Marie se mit à gamberger sur les suites qu'elle pourrait bien donner à son enquête. Car elle ne se voyait pas, mais alors, pas du tout, établir le délit et revenir à Quimper pour célébrer l'enterrement du dossier. On lui demandait de commencer par la fin, c'est-à-dire l'assiette. N'empêche, il faudrait bien un moment ou un autre prendre les choses au début, c'est-à-dire par la pêche de ce poisson. Cependant, avant d'aller traîner ses basques à la criée de la Turballe ou à celle du Croisic, il était important de se renseigner un peu plus avant. Marie n'était pas née de la dernière pluie. La Baudroie, le vrai nom de la lotte, elle savait ce que c'était. Même si, évidemment, on n'en pêchait pas sur le Dracar. Note de bas de page, voir aller simple pour l'enfer. On n'en pêchait pas sur le Dracar, vu que la Baudroie est un poisson de fond. Et on n'en voyait pas non plus sur les étals des poissonniers, ou plutôt, on n'en voyait que la queue. Car une gueule de lotte, franchement, ça n'est pas très ragoûtant. Pas plus d'ailleurs que tous ces poissons pélagiques des profondeurs que le Dracar allait traquer dans les mers glacées par des 1000 et des 2000 mètres sous la surface. Alors, on l'a trouvé où cette bestiole? En fait, sur nos côtes, à partir de 30 mètres de fond environ, quelquefois moins, planquée dans la vase ou en pose mimétique parfaite sur des roches, en train d'agiter une espèce de petite pêche à la ligne, avec un appât devant sa grande gueule, prête à bondir, comme disait Coluche. Note de bas de page. Je me marre, la milice 4x4 prête à bondir. Pour faire bref, un poisson pêcheur. Un peu paradoxal, mais ce qui prouve une fois de plus que l'homme qui se croit si malin n'a pas inventé grand-chose, marmonna Marie pour elle-même, en pianotant quelques mots-clés sur un moteur de recherche, allongé sur le divan de sa chambre d'hôtel. Et donc, ça se pêche au chalut, mais au chalut de fond. Marie eut une moue de désapprobation. Déjà, la pêche au chalut pélagique, note de bas de page, chalut qui travaille entre deux eaux pour pêcher des espèces de plein eau comme le thon, la sardine, l'anchois, le maquereau. La pêche au chalut pélagique, elle n'aimait pas beaucoup ça. Ça ne préservait pas vraiment la ressource. Mais alors, les chaluts de fond, non seulement ça ramassait tout dans une grosse boule compressée au fond du chalut, les bons et les mauvais, les petits et les gros, mais en plus, ça bousillait pour de bon l'écosystème en arrachant tout sur son passage. Dans le genre Attila sous-marin, après, le désert. Ah, on pouvait aussi pêcher ce pêcheur à la ligne à son propre piège. Déjà mieux. Mieux, mais pas efficace question tonnage. Et en plus, la baudroie ferait partie des espèces menacées par la surpêche, selon les écolos en tout cas. Voir, faudra interroger les pêcheurs, se dit Marie. Puis, elle se leva, mit un CD d'une sonate de Mozart et revint se pelotonner sur elle-même dans le canapé, le menton posé sur les genoux. C'était sa façon à elle de réfléchir. Voyons. Compliqué, en tout cas prématuré, d'aller directement voir ce qui se passait dans les criées. Même si, évidemment, c'était une étape centrale dans une perspective de fraude. Les criées, ça bosse la nuit, c'est un monde de mecs, fermé, et essayer d'introduire une souris comme elle dans le milieu tout en restant discret, il valait mieux ne pas y compter. Déjà, un homme devrait accepter de longs mois d'apprivoisement dans un nouveau boulot avant de pouvoir s'approcher de trafic louche, même en étant encarté, note de bas de page, dans un certain syndicat, ce qui n'était pas son cas. Marie résolut d'aller plutôt encore en amont, embarquer sur des pêcheurs côtiers. Le lendemain, téléobjectif en bandoulière, Marie se délectait d'un médaillon de lotte piqué au chorizo, accompagné d'une compotée de tomates et poivrons et d'une rosace de courgettes cuites au four. Elle avait opté pour le Palace des Gourmets au Croisic, avec vue sur le trait. Note de bas de page. Le trait est une sorte de golfe dont l'entrée est au Croisic, qui alimente les marais salants à marée haute et assèche presque complètement à marée basse. Tout à sa dégustation et le regard perdu sur le spectacle charmant des langues de sable ocre que découvrait le jusant, Marie faillit finir son assiette. Mademoiselle, si je puis me permettre, vous êtes photographe animalière ? L'interpellation courtoise venait d'un homme d'âge mûr assis à la table voisine, également solitaire. Marie lui fit un sourire charmant, en le remerciant intérieurement doublement. D'abord d'avoir interrompu son repas alors qu'elle était sur le point d'oublier de prélever un échantillon, et puis aussi parce qu'il lui donnait l'occasion de conforter sa couverture. C'est comme photographe qu'elle envisageait de s'introduire dans le milieu de la pêche. Si elle n'était pas professionnelle, elle se débrouillait assez bien pour pouvoir le prétendre. Un photographe, par définition, ça regarde dans tous les coins, bien pratique. Et de plus, elle y prendrait beaucoup de plaisir. Photographe animalière, pas exactement, mais photographe, oui. En fait, je travaille en solo pour proposer ensuite mes clichés aux structures touristiques publiques ou privées. Et je suis venu au Croisic pour compléter mon fonds sur les activités traditionnelles, la pêche en particulier. Vous-même ? Oh, je ne suis qu'amateur, mais la faune ornithologique est si riche ici que j'avoue avoir assez souvent réussi de belles images. J'y reviens tous les ans. Et vous avez déjà embarqué sur des bateaux de pêche ? Ma foi, cela m'est arrivé l'an passé. Je voulais photographier des espèces hauturières, des fous, des guillemots, des pingouins tordas. J'ai même eu la chance de photographier quelques pétrels fulmars un jour de gros temps. Et vous croyez que vous pourriez me recommander pour un reportage ? Ce serait une telle opportunité pour moi. Marie avait mis beaucoup de déférence dans sa requête, assortie d'une minauderie redoutablement efficace dont elle avait le secret. Notre homme se rengorgea, et flatté d'avoir à venir en aide à une aussi jolie personne, il communiqua à Marie tous les renseignements qu'elle souhaitait avoir. Marie nota consciencieusement trois noms de bateaux sur lesquels son voisin avait embarqué l'an passé. Et lorsque ce dernier se leva enfin pour aller régler sa note, Marie en profita pour en sacher un nouvel échantillon de Lot. Le temps avait fraîchi, et c'est avec une pomme au four et son coulis de framboise qu'elle acheva son repas. Pour que sa couverture fonctionnât, il fallait qu'elle soit remarquée. Aussi, elle passa l'après-midi à déambuler sur les quais, s'amusant comme une gamine qui fait l'école buissonnière, à traquer les scènes pittoresques qui ne manquaient pas sur ce vieux port. Elle passa rapidement devant la capitainerie et le port de plaisance, et s'attarda sur les autres bassins, avec même quelques clichés techniques sur la criée, dont l'architecture moderne semblait défier l'harmonie immémoriale de la vieille ville. Elle se doutait bien qu'elle aurait à y revenir. Mieux valait étudier précisément ce lieu, identifier chaque entrée de cette plaque tournante des transferts entre les bateaux de pêche et les camions frigorifiques. 16 heures. Une à une, les embarcations se mirent à embouquer le chenal, animant de leurs couleurs vives la passe tranquille envahie par le flot. Marie guettait quand elle repéra le Pierre et Jeanne, l'une des trois unités recommandées par le photographe aux oiseaux. Il vint doucement accoster le quai, et au téléobjectif, Marie vit qu'il déchargeait des caisses de crustacés. Elle attendit tranquillement que l'opération soit terminée, que le matelot ait achevé de laver le pont et que le patron ait terminé une discussion animée au téléphone. Alors elle s'approcha et, tout sourire, vint présenter sa requête, non sans avoir au préalable exprimé son admiration pour les magnifiques homards bleus qui gisaient au fond des caisses marquées « Criée du Croisic ». Il faut croire qu'elle sut se montrer persuasive, car le lendemain, à 5 heures précises, elle enjambait le bastingage de Pierre et Jeanne. Patrick, le patron, en la saluant, apprécia l'agilité de sa matelote d'un jour, ses bottes de mer et son pull à col roulé. Il n'embarquait pas une millinette. Marie, quant à elle, savait bien que sur ce caseilleur, elle ne verrait pas la queue d'une baudroie, mais elle espérait bien pouvoir glaner quand même un maximum d'informations. 10 minutes plus tard, le Pierre et Jeanne doublait la jetée du Tréhic, puis arrondissait la pointe en laissant à bâbord la base Castouillet. « Castouillet, c'est une sonorité qui évoque le midi !» s'exclama Marie. « Que voulez-vous? C'est la Bretagne Sud ici !» Patrick mit la barre au 180, sous pilote automatique, vers la base Michaud. 5 000, 10 nœuds, une demi-heure de route, le calcul était vite fait. Les yeux rivés sur l'horizon, le patron du Pierre et Jeanne se laissait volontiers aller à causer. Sans oublier de prendre un cliché de temps en temps, Marie alimentait la conversation et l'orientait insensiblement vers la question de la ressource. « Tenez, pour ce qui est des homards, c'est quand même malheureux. On n'est plus que deux à faire ce métier. Faut dire qu'avant, ça grouillait et qu'aujourd'hui, il faut aller les chercher. Sans compter qu'avant, il y avait aussi de la langouste, mais c'est fini tout ça. J'en ai pêché 2 ou 3 il y a 15 ans. C'est déjà la génération de nos parents qui l'a fait disparaître. Et nous, on fait pareil avec le homard. Et vous ne pensez pas qu'on peut faire quelque chose? Si, bien sûr, on peut. Les Anglais, ça me fait mal au cœur de le dire, mais les Anglais, sur ce coup-là, ils sont quand même plus malins que nous. Plus disciplinés, en tout cas.
Comment ça?
Ben, ils ont décidé de ne plus commercialiser les femelles.
Et ça marche?
Un peu que ça marche. Comme il suffit d'un mâle pour féconder plusieurs femelles, en 10 ans, ils ont repeuplé leur côte en homard. C'est excellent pour les pêcheurs, et c'est bon aussi pour le tourisme.
Et il n'y a pas trop de fraude?
Faut croire que non. Puis il faut dire que les femelles, quand ils en pêchent, ils leur mettent un truc clipsé sur la queue, un peu comme une sécurité anti-vol sur les vêtements dans un supermarché. Alors, on ne peut pas la retirer sans déchirer la queue du homard. Au cas que le pêcheur d'à côté soit pas trop regardant sur le règlement.
Mais alors, pourquoi on ne fait pas ça chez nous? S'écria Marie un peu naïvement.
Faudrait encore qu'on soit capable de s'entendre. Vous avez 2 pêcheurs bretons, vous avez 3 avis. Et surtout, pas un seul qui accepte de remettre en cause son bénéfice à court terme. Car évidemment, au début, on divise les prises par 2.
À l'est, l'aurore se substituait peu à peu aux lumières de Saint-Nazaire.
Marie était sur le bon terrain, elle résolut de pousser son avantage.
Et le poisson, les stocks de poissons, comment évoluent-ils ?
Patrick éclata d'un gros rire qui sembla le secouer comme un pantin.
« Ça dépend, ma petite dame, ça dépend. L'anchois, c'est les Espagnols qui nous piquent tout. Bientôt, on n'aura plus que les arêtes à pêcher. »
« Il y a des règles, pourtant. »
« Bien sûr, mais vous avez déjà vu des pêcheurs respecter les règles, et des pêcheurs espagnols encore en plus. La seule règle qu'ils comprennent, c'est le canon. »
Tout en causant, Patrick se mit à boiter les casiers d'une nouvelle filière qu'il allait déposer à proximité d'une épave aux deux tiers de la route.
Vous comprenez, autrefois, on puisait dans la mer comme si elle était intarissable. C'était presque vrai, d'ailleurs. Aujourd'hui, la demande a augmenté, et les techniques ont suivi, alors on vide les mers. C'est pour cela que maintenant, on parle de ressources et de stocks de poissons. On doit changer de regard, et bien se mettre dans le crâne que la ressource, c'est un bien commun. En fait, avant, on était des prédateurs. Plus on pêchait, plus on gagnait, c'était simple. Mais aujourd'hui, on devient des éleveurs. Et on doit prélever juste ce qu'il faut.
Si je comprends bien, de loup, vous êtes devenu berger. C'est pas une petite révolution dans les mentalités.
C'est ça, c'est exactement ça. Et croyez-moi, beaucoup font de la résistance. Ils se disent, les autres, ils ont qu'à faire gaffe, et moi, en attendant, je rafle tout ce que je peux. Il n'y a pas plus individualiste que nous, faut bien le reconnaître. Mais quand même, ça commence à changer. Dommage que ce soit un peu tard. Concrètement, on fait comment pour tenir compte de la ressource ?
Ben, la solution, même si on n'aime pas trop ça, c'est le système des quotas.
Remarquez, ça a du bon les quotas. Au moins, on ne cherche plus à vider les mers, puisque de toute manière, on est limité.
Alors, ça étale l'arrivée du poisson sur le marché, les cours se tiennent mieux,
et la marge, on ne la fait plus sur le volume, on la fait sur la qualité du poisson. Et ça, ça favorise les pêches propres, la ligne surtout. La marge, on la fait aussi sur les économies, le gasoil en particulier. Ça ne sert plus à rien d'aller au bout de l'océan tirer des chaluts, mieux vaut des engins dormants.
Marie se souvint de la guéguerre opposant les ligneurs, filayeurs et caseilleurs d'une part, et les chalutiers de l'autre. Malgré sa sympathie pour l'équipage courageux du Drakkar, elle avait choisi son camp depuis longtemps.
Mais pour vous, ça ne change pas grand-chose tout ça. J'imagine que les homards ne sont pas dans les zones de chalutage.
Peut-être pas, mais ils bousillent quand même tous ces salauds-là.
Patrick s'échauffait.
Il y a des ligneurs au Croisic ?
Bien sûr. Moi-même, je pose des lignes de temps en temps. Surtout pour me débarrasser des congres.
Vous verrez ça tout à l'heure. Ils infestent les casiers. Et c'est vorace, ces bestiaux-là.
Si je comprends bien, eux, ils ne sont pas en voie de disparition.
Sûr que non. Quand je pose des lignes à congres, je remplis la cale arrière.
Et vous en faites quoi ?
Ben, on les vend en Espagne. Là-dessus, ils n'ont pas tort, les Espagnols, faut le dire. C'est pas si mauvais qu'on le dit, le congre.
Je refile même en direct au resto sur la côte sauvage qui est en face de chez moi. Et ils savent le cuisiner, croyez-moi.
Mais moi, je n'en pêche que de temps en temps sur mes coins homards, histoire de nettoyer un peu le terrain.
Les congres mangent les homards ?
Quand ils muent, ma petite dame, quand ils muent, ils ont intérêt à rester bien planqués dans leurs trous, sinon...
Et les autres poissons, alors, lesquels sont vraiment menacés de disparition ?
Menacés ? C'est plutôt les pêcheurs qui sont menacés de disparition.
Prenez le bar, par exemple. On a augmenté la maille.
Note de bas de page, taille légale minimale de capture.
On a augmenté la maille, bien sûr, mais beaucoup trop tard. Il y en a beaucoup moins qu'avant.
Alors, pour s'en sortir, quand on fait le bar, ça devient difficile.
La sole, c'est pareil. Avant, il y en avait partout, et maintenant... Le rouget, c'est pas beaucoup mieux.
Et tous ces poissons, ils sont encore pêchés ici, au Croisic ?
Bien sûr. Tenez, pour le bar, vous avez le soleil rouge, ou encore coup de peau, de ligneur. Eux, ils font du boulot propre. Tout poisson pêché est vendu, et bien vendu encore. Puis il y a les filayeurs qui pêchent un peu de tout.
J'embarquerai bien avec eux si vous pensez que c'est possible.
Ça, oui, c'est possible. Avec ou sans les paperasses obligatoires qu'ils veulent nous faire remplir maintenant, dès qu'on embarque quelqu'un.
Ah, faut croire qu'il y en a qui aiment ça, la paperasse.
Sur ces bateaux, ils pêchent aussi ce drôle de poisson qui a une gueule de monstre avec une antenne sur la tête. Ça me ferait des photos terribles.
Vous voulez parler de la baudroie ?
C'est ça. On la pêche bien dans les parages ?
Ça, je sais pas trop.
Ah bon ? Marie hésita puis se jeta à l'eau, prêchant le faux pour savoir le vrai.
C'est bien la lotte, ce poisson ?
Je crois bien que j'en ai mangé l'autre jour chez une amie. Je ne sais pas trop d'où elle venait. Peut-être bien de Rungis. Mais en attendant, ça fait une paye que j'en ai pas vu une ramener à la criée. Ah, dommage. J'aurais bien fait un reportage sur le monstre qu'on met dans nos assiettes. L'après-midi était déjà bien avancé quand Marie quitta le patron de Pierre et Jeanne. Dans sa besace, un homard bleu magnifique, une belle godaille. Elle avait chaleureusement remercié Patrick pour la virée et l'avait gratifié de 4 bises à la finistérienne. C'est vrai, quoi, il le méritait bien. Car Marie avait obtenu au passage des informations qui confortaient sérieusement la lettre anonyme de dénonciation et les soupçons de l'Ifremer. Récapitulons, murmura Marie pour elle-même dans la chambre de l'hôtel Beau Rivage qui donnait sur le vieux port du Croisic. De Beaudroit pêché au Croisic, pas la première queue. Par contre, du Congre, en veux-tu, en voilà. Du Congre censé partir en Espagne, et dont tout semble indiquer qu'on le retrouve dans les assiettes des restaurants de la côte. Plus que jamais, l'attention de Marie s'est focalisée sur le vaste bâtiment moderne qui défigurait le vieux port, la criée. C'était pour cela, bien sûr, qu'elle avait loué cette chambre, pas pour l'originalité du nom de l'hôtel. Marie soupira profondément. Elle s'était levée avant 5 heures pour partir sur le Pierre et Jeanne, et voilà ce qui l'attendait. Une planque toute la nuit pour observer les activités de la criée. Encore heureux s'il ne fallait pas répéter cette planque pendant une semaine. Et dire qu'au téléphone, le commissaire Fabien s'était encore fendu d'allusions lourdingues sur les vacances de Marie en Bretagne Sud. Marie se surprit en flagrant délit de mauvaise foi caractérisée et sourit d'elle-même. Allons, comme planque, on avait vu moins confortable. Résumons l'ordre de bataille pour affronter la nuit. Le repas du soir à l'hôtel, d'abord, avec pour changer un boudin grillé aux pommes. Évidemment, pas l'idéal pour dormir, mais justement, elle ne dormirait pas beaucoup. Et puis, marre, quoi de la lotte qui est même pas de la lotte si ça se trouve. Une petite sieste ensuite, jusqu'à minuit. Il ne risquait pas de se passer grand-chose avant minuit. À minuit, et pour tenir la marée, un bon bain chaud avec tous les gadgets. Mousse, bulle, parfum. Pas de sa faute si la chambre avec la meilleure vue sur le trait, et surtout sur la criée, était la chambre la plus luxueuse de l'hôtel. En salivant d'avance, Marie étala aussi toute une provision de tablettes de chocolat. Au citron vert, aux myrtilles, aux amandes, aux parfums crème brûlée, et aux éclats de caramel au beurre salé, la locale de l'étape. Ça maintient éveillé le chocolat. C'est tout ? Ah, j'oubliais, bien sûr, un coffret de CD du divin Mozart. Et puis, un fauteuil en osier, pas profond, pour ne pas trop avoir à lutter contre le sommeil. Enfin, pour terminer, un polar assez prenant pour vous passer l'envie de roupiller. Marie se mit franchement à rire toute seule. Oui, la planque ne serait pas la plus difficile de sa carrière. Minuit, la petite musique de nuit qui lui sert de sonnerie de réveil tire Marie de sa torpeur. Direction, la salle de bain pour une transition douce vers la longue veille qui s'annonce. 1 heure. Après les dernières bravades de pseudo-marins alcoolisés, le calme complet s'est établi sur le port du Croisic et les lampadaires se sont éteints. Mais il reste assez de lune pour que Marie ne manque rien de la scène. 2 heures. Déjà toutes les tablettes sont grignotées et celle aux éclats de caramel n'est plus qu'un souvenir. Mais Marie a du mal à s'intéresser au polar et reste à contempler les quais. On doit être proche de l'étale basse. 2 chats qui miaulent et râlent. Activité proche du néant. 3 heures. RAS. 3h10. Plusieurs personnes arrivent à la criée, à pied ou pour certaines en voiture. Quelques lumières s'allument, puis s'éteignent. Ils entrent sans doute par une porte côté mer, invisible de sa chambre. 3h20, un chalutier s'approche tranquillement du quai. À peine les ossières tournées sur les taquets, la petite grue bleue décharge des piles de caisses, aussitôt rentrées dans la criée grâce à un engin élévateur. 4h40, 3 autres chalutiers ont déchargé, et voici qu'un camion frigorifique arrive auprès d'une des larges portes de la criée, et se gare cul au bâtiment pour charger sans doute. Immatriculation Santander. Clic, c'est dans la boîte à images. 5 heures, le camion espagnol est reparti. Il n'a pas perdu son temps, celui-là. 2 autres sont arrivés. Même manège, mais ce sont des camions plus modestes immatriculés en Mayenne et en Sarthe, avec des publicités de marieurs sur le flanc. Désormais, des lumières attestent d'une activité intense à la criée. D'autres personnels sont arrivés. Accessoirement, il n'en reste plus beaucoup de chocolat. Marie referme le rideau. Une pièce supplémentaire s'est ajoutée aux Pulse. À première vue, c'est l'activité ordinaire d'une criée. Du poisson arrive par bateau, du poisson repart par camion. Il y a bien du poisson qui part pour l'Espagne, et c'est un camion particulièrement matinal, donc discret. Que transporte-t-il ? Encore un point à vérifier. Ce qui serait un jeu d'enfant pour une enquête ordinaire, il suffirait d'un coup de fil à la répression des fraudes pour un contrôle du camion. Mais comme il ne faut pas faire de vagues, on trouvera un autre moyen. Allez, au dodo. Et surtout, ne pas oublier de désactiver le réveil.
Aux délices de la côte. Marie avait pris son temps à l'hôtel pour mettre de l'ordre dans ses notes et ses idées. Et elle se trouvait maintenant à la devanture du petit resto sur la côte sauvage du Croisic. Pas si sauvage que ça quand on connaît la pointe Saint-Mathieu ou même Quiberon, mais bon, il ne faut pas leur en vouloir, ils font avec ce qu'ils ont. Toutefois, ce qui retenait l'attention de Marie, ce n'était pas la douceur de la côte ingénument affublée du sobriquet de sauvage, c'était la carte rôti de congre à l'armoricaine. Marie était soulagée. Elle aurait eu mauvaise conscience à dénoncer un trafic impliquant Patrick, le sympathique patron du Pierre et Jeanne. Mais ici, au moins, on annonçait la couleur. Et bien sûr, moins cher, mais alors, beaucoup moins cher que toutes les spécialités de Lot goûtées par Marie ces derniers temps. Allons, pour une fois, le patron n'aurait pas de mal à digérer cette note de frais. Marie éprouva une satisfaction particulière à ne pas laisser une miette du plat de résistance. Cela la vengeait de tous ces sachets de congélation envoyés au labo. Ce rôti de congre, vraiment une réussite. Comme il n'y avait presque personne, l'occasion était bonne d'aller tailler une bavette avec Jean-Marc, le cuistot, et Marie, tout sourire, se lança dans un éloge à la fois sincère et piqué de curiosité sur la recette de ce plat de congre. Vraiment, c'était délicieux. Ben, c'est vrai qu'on me le dit à chaque fois, et pourtant, ça ne fait qu'un mois que je suis ici, mais il y a déjà des gens qui reviennent pour le rôti de congre. Il faut dire que vous êtes sans doute le seul resto à en proposer. Et j'imagine que c'est du congre pêché au Croisic. Bien sûr, les congres ici, ce n'est pas ça qui manque. Ce qui manque peut-être, ce sont les artistes, pour savoir le cuisiner. Jean-Marc rosit de plaisir et bredouilla quelque chose d'inintelligible qui devait s'apparenter à un remerciement. Vraiment, je vais rester là-dessus, mais comptez sur moi pour vous faire de la publicité. Marie se promenait sur la plage de la Gauvelle, le regard distrait par quelques étudiants qui prolongeaient sans excès de mauvaise conscience leurs longues vacances d'été par des séances de surf au mois d'octobre. La nuit précédente, elle avait pour la 3e fois consécutive assisté au manège du chalutier qui accostait discrètement, et environ 1h30 plus tard, un camion espagnol prenait la route. Durant ces 2 journées, Marie avait complété son tour des restaurants chics et envoyer assez d'échantillons pour permettre de se faire une idée précise de l'étendue de la fraude, si fraude il y avait. Elle allait probablement avoir tout à l'heure confirmation par le labo que bien des sachets envoyés ne contenaient que du congre, certes particulièrement bien cuisiné, mais pas mieux que celui dont elle s'était régalée aux délices de la côte. Et le risque était grand que le patron, qui n'aimait pas trop se passer de Marie longtemps, la rappela pour lui signifier que, bravo, elle avait bien établi le délit et qu'on allait en rester là. Évidemment, Marie n'était pas satisfaite par cette perspective. Mais alors, pas du tout. D'abord, parce qu'elle était presque sûre que tout cela ne déboucherait sur rien. Le sous-préfet miserait sur l'espoir que le dénonciateur allait se dégonfler, ou même qu'il bluffait en prétendant avoir des preuves. En mettant les choses au pire, on pourrait toujours arguer qu'une enquête était en cours. Et puis, savoir que le congre pêché au Croisic arrivait sur les tables des restaurateurs, cela ne résoudrait pas la question de savoir ce qui partait en Espagne chaque nuit. Peut-être aussi du congre, peut-être que non. Ce camion qui chargeait en catimini, ça la turlupinait. Et Marie voulait en avoir le cœur net. Il y avait bien une solution, ou en tout cas une chose à tenter, mais Marie rechignait un peu à s'y résoudre. Elle aimait bien son indépendance, certes, mais elle ne souhaitait pas non plus désobéir. Évidemment, elle pouvait toujours oublier de rappeler le commissaire Fabien et tenter une incursion discrète dans la criée. Pas grand-chose à craindre si rien d'anormal ne se passait dans cette criée. Et ma foi, s'il y avait un trafic louche à mettre à jour, on ne pourrait pas la blâmer d'avoir pris l'initiative d'aller en chercher la preuve, à condition de réussir. Seulement, il fallait bien reconnaître que Marie se lançait sans filet. Elle n'était pas mandatée pour s'introduire dans la criée, ne pourrait s'appuyer sur aucun soutien officiel, et son petit doigt lui disait que ce n'était pas prudent. Pourtant, la même intuition la poussait à aller voir ce qui se tramait dans ce bâtiment qui vivait la nuit, avec une remarquable discrétion, tant dans les entrées que dans les sorties. Marie leva les yeux. Sur les bandes de tissu synthétique qui coupaient le vent, afin de permettre aux œillards de reconstituer la dune, une main malhabile avait tagué « C'est beau la mer ». Pas fortiche en orthographe, mais au moins celui-là était sensible à la splendeur du spectacle qu'il avait devant les yeux. Pas vraiment le genre de tag sinistre et désabusé qu'on trouve sur les gares de banlieue. Décidément, quitte à être désœuvré, il valait mieux l'être au bourg de bas que dans le 9-3. Faisons le point. La seule piste qui se présente, c'est d'aller voir ce qui se trame dans la criée. Primo, plutôt risqué d'y aller seul. Deuxio, pas de renfort officiel possible. Marie savait qu'il y avait un troisième terme pour résoudre l'équation, mais elle avait quelques scrupules à y recourir. Sans avoir vraiment choisi, Marie ralluma son téléphone portable et aussitôt il se mit à vibrer. Allons, si c'était le patron, l'enquête se terminerait là, devant les rouleaux de la plage de la Gauvelle. Marie hésita, puis en soupirant, répondit à l'appel. « Capitaine Lester, je vous écoute. »« Lieutenant Fortin, je vous parle. »« Ça, JP, tu m'as fichu la trouille. D'où m'appelles-tu ? » ?»« Je ne connaissais pas le numéro et j'ai eu peur que ce soit le patron qui veuille terminer l'enquête. » Ben, je le comprendrais, c'est que tu nous manques ici, tu sais. Allez, mon grand, tu me manques aussi, et plus encore que tu ne peux croire. C'est gentil, mais si je te manquais tant que ça, tu serais déjà de retour. J'ai cru comprendre que tu avais fini le boulot, mais que tu ne te précipitais pas pour avoir le résultat. Les conclusions du labo sont sur le bureau du patron depuis hier, et toutes les 10 minutes, il demande si tu as appelé. Et je pense bien qu'entre-temps, il cherche à te joindre. Tu dois en avoir une tripotée de messages sur le téléphone. À vrai dire, il est éteint depuis un petit moment. J'hésitais entre appeler le patron pour terminer cette enquête sur un demi-succès, et pour moi, ce serait plutôt un demi-échec, évidemment, ou t'appeler toi pour une opération, disons, de surveillance rapprochée en dehors du plan de mission. Bon, j'ai compris, je t'en demande un peu trop cette fois. Mais non, Marie, tu ne m'en demandes jamais trop, ça perd l'hypopète. Tu n'imagines quand même pas que je vais me dégonfler ? Dans ma tête, je suis déjà dans la bagnole. Mais faudrait savoir un peu ce qui m'attend. Déminage, plastiquage, combat rapproché, fusil à lunettes. Raconte un peu pour que je m'équipe. Et dans à peu près 2 heures, je suis sur place. Mon grand, je savais que je pouvais compter sur toi. Par contre, ça risque de te fusiller la nuit, car demain matin, faudra être de retour au boulot à Quimper. Encore, si ça réussit, le patron passera dessus comme d'habitude. Mais si on ne prend rien, ou pire, s'il y a de la casse... J'aime autant ne pas y penser. Ça ne me dit pas ce que je dois emporter, tout ça. Oh, rien que l'habituel, de quoi neutraliser des malfrats, si je ne me trompe pas, et les Tokiwoki miniatures qu'on a reçues à l'automne, je te donne rencard à l'hôtel Beau Rivage, au Croisic. Le temps de passer au tabac, acheter l'équipe, et je prends la route. J'appellerai ma femme une fois partie, ça lui évitera d'essayer de me faire rester. Et c'est ça ton plan ? Le lieutenant Fortin regardait Marie avec une moue réprobatrice. Tu rentres dans la criée avec le poisson, et tu ressors avec le poisson, le tout déguisé en poisson peut-être. JP, te moque pas, tu en as un autre, toi, de plan? Ben, on braque le chalutier pour savoir ce qu'il ramène, puis on braque le camion espagnol, sans faire de vagues, je te rappelle, et sans mandat d'aucune sorte. « Bon, ça va, alors tu vas te jeter dans la gueule du loup, et si le loup te croque, j'interviens, c'est ça ?»« Exactement ça. Seulement, j'aimerais autant que tu interviennes avant que je ne sois déjà digéré. »« Et j'agis sans faire de vagues, bien sûr. »« Me charrie pas, si tu dois intervenir, on prend la poudre d'escampette sans laisser d'adresse.
Alors, s'il y a des vagues, on ne saura pas d'où elles viennent. C'est tout ce que demande le patron. Enfin, presque.
3 heures du matin. C'est au tour de JP de poireauter dans la chambre d'hôtel. L'équipe a remplacé Mozart pour faire passer le temps, mais JP n'arrive pas à se prendre aux commentaires sportifs. Sa Marie a disparu derrière la criée, et la dernière vacation sur Tokiwoki remonte à plus d'une demi-heure. Depuis, le chalutier annoncé est arrivé, et JP se doute que Marie a réussi à se faufiler dans le bâtiment avec la cargaison. Mais l'entrée lui est cachée, et avec le temps qui passe, JP commence à s'impatienter. Alors, quand le camion espagnol arrive, il ne tient plus et descend sur le quai. L'inaction, c'est pas son truc au lieutenant Fortin.
5 heures. Le camion espagnol est reparti. Celui-là n'ira pas très loin avec l'additif que JP a rajouté dans le réservoir. Mais ça perd les popettes, toujours pas de Marie.
5h20. La bordée, le café qui fait face à la criée, a ouvert ses portes et des marins sont entrés. Son Tokiwoki toujours surveille, JP s'y glisse à son tour, plus pour se donner une contenance que pour se réchauffer. Il commence à être bougrement inquiet. Deux hommes sont accoudés au comptoir. Ils ont l'air déjà bien allumés, sans doute pas dessoulés de la veille. Et des bribes de leur conversation parviennent à ses oreilles aux aguets.
M'avait l'air trop mignonne pour être honnête.
Au frais, l'anguille, elle a voulu se glisser pour voir du poisson. C'est la dernière chose qu'elle verra.
Bonne à boiter les casiers, circuler,
s'écouler.
Une gueuse à chaque pied par 100 brasses de fond.
Note de bas de page.
Une gueuse, point en fonte destiné à lester les lignes et les filets.
En 2 jours, elle fera un bel épouvantail à poissons volants.
Et ils ricanèrent d'un rire gras.
D'un coup, JP se fige. Il a une conscience aiguë de l'horreur et de l'urgence du danger que ses propos décousus laissent entendre.
Et il lui faut une énergie terrible pour aller calmement régler son café noir sans rien laisser paraître de la fureur et de l'angoisse qui l'ont saisi.
Dehors, les premières lueurs de l'aube adoucissent la nuit à l'est. Les portes de la criée qui donnent sur la rue sont fermées, celles qui donnent sur le quai aussi, mais elles sont cachées de la rue.
JP avise la petite grue bleue qui sert à décharger les bateaux. Vite, il fixe une élingue de la grue à la porte de la criée la plus proche et s'installe aux commandes sur le siège.
L'élingue se tend, la porte grince et cède. Aussitôt, JP se précipite dans le bâtiment. Une lumière blafarde éclaire les piles de caisses bleu clair et bleu foncé. Un long présentoir et voilà. Des portes en inox avec chacune un affichage digital qui garantit la température de conservation.
JP s'engouffre dans la première chambre froide, vide. La seconde, seulement des piles de caisses. La troisième,
derrière une armoire métallique, Marie, ligotée, recroquevillée, étendue sur le carrelage.
D'un bond, JP la prend dans ses bras. Elle gémit et ce léger allaitement donne des ailes au lieutenant qui est déjà dehors lorsque les cris le poursuivent.
Mais JP ne les entend même pas. Marie est déposée sur la banquette arrière, il tranche ses liens, la recouvre d'un plaid et démarre en trombe, faisant rugir le moteur en sur-régime pour faire monter plus vite la température. Chauffage au maximum.
En remontant le coteau de Guérande, il double sans s'arrêter le camion espagnol en panne sur le bas-côté.
L'habitacle commence à tiédir. Au rond-point, il hésite, fait un tour complet et se gare.
Marie, hôpital de Saint-Nazaire ou maison directe ?
Maison, mon grand, arrive à murmurer le capitaine Lester.
À Herbignac, la chaleur étouffante commence à ravigoter Marie. 3 kilomètres plus loin, elle réclame.
Je ferais bien une pause avec un grand thé bouillant bien sucré.
Dans 5 minutes à la Roche-Bernard, ça te va ?
Ça me va, mon grand. Ça m'ira même très bien.
Et c'est ainsi que Marie et JP se trouvèrent attablés autour d'un solide petit déjeuner à l'auberge du Croissant d'Or.
Marie était encore secouée de temps à autre d'un long frisson, mais elle sentait la chaleur revenir à l'intérieur de son corps et sirotait son thé à petits coups, tandis que JP calmait ses nerfs en engloutissant croissant sur croissant.
Soudain, Marie avisa une cabine de téléphone public à l'ancienne derrière le comptoir. Elle hésita un court instant et se retourna vers son acolyte.
« Tu sais quoi, JP ? Je crois qu'on a gagné le droit de faire quelques vaguelettes. »
« Eh bien, avant d'arriver au commissariat à Quimper, on va donner quelques coups de fil.
Anonyme, bien sûr.
Téléphoner ? Mais à qui ?
Jippy, si tu ne m'avais pas tiré d'un si mauvais pas, je dirais que tu manques un peu d'imagination. Il y en a pourtant des gens qui vont s'intéresser à nos histoires. Surtout si on leur met un peu la pression.
À 8h30, ils se glissaient tous deux par la porte arrière du commissariat de Quimper. Par bonheur, une réunion régionale des divisionnaires dispensa les compères d'avoir à fournir des explications dans le bureau du patron ce jour-là.
Marie ne tenait pas encore la grande forme, et même Amandine n'eut pas droit ce soir-là au compte-rendu qu'elle escomptait au retour de son héroïne. Amice du seul, note de bas de page, le chat de Marie, elle raconta en lui illustrant la police quelques bribes d'histoire de Lotte et de Congre qui lui firent se lisser les moustaches. Puis elle se glissa sous la couette, savoura la douce chaleur et s'endormit dès 20h.
Un tour de cadran plus tard, quand Marie arriva encore ensommeillée au commissariat, Jippy avait délaissé l'équipe pour se plonger avec délectation dans les vadelettes de West France et de l'écho de la presqu'île qu'il consultait sur Internet.
Un tsunami pour les restaurateurs de la Côte d'Amour. Une source autorisée nous l'a confié, des étoiles vont tomber. Il semblerait que de nombreux restaurateurs aient pris l'habitude dans leurs cartes de faire passer du Congre pour de la Lotte. La chair de ces deux poissons est blanche, ferme et musculeuse, mais la Lotte se négocie 10 fois le prix du Congre au kilo. Plusieurs investigations ont eu lieu ces derniers jours. Selon une source proche de l'enquête, la perspective d'un profit facile a suffi pour faire vaciller l'honnêteté de certains restaurateurs peu scrupuleux. On ne mesure sans doute pas encore l'étendue du scandale et des répercussions sur la filière.
La pêche turbalaise et croisiquaise dans la tourmente. Avis de grands frais pour la pêche turbalaise et croisiquaise après la découverte d'un chargement de barres de chalut de taille inférieure à la maille. L'histoire est rocambolesque. La répression des fraudes a été saisie en urgence par la brigade de gendarmerie de Guérande, intervenue sur un camion à destination de Santander qui venait de charger à la criée du croisic. Un épais mystère entoure cette affaire. La gendarmerie a été prévenue par un appel anonyme qu'il convenait de contrôler un camion en panne sur la départementale 774. D'après les premiers éléments de l'enquête, la panne aurait été provoquée artificiellement afin de permettre ce contrôle. On ne sait pas encore si l'auteur du coup de fil est aussi responsable de l'immobilisation du camion, mais il était bien renseigné, car les inspecteurs ont mis à jour un trafic frauduleux. Ce camion était censé transporter une cargaison de Congre. Mais sous les premières caisses, ils ont découvert un chargement composé de barres de chalut de taille inférieure à la taille légale. Ceci intervient dans un contexte tendu entre les tenants de la pêche au chalut et les ligneurs, qui pourraient ici marquer des points décisifs. Ceux-ci accusent régulièrement les premiers de fragiliser la ressource. Cette affaire pourrait être en lien avec les mises en cause de mareyeurs dans une autre histoire de fraude avec des restaurateurs pour complices. Et puis un simple entrefilet. Le sous-préfet de Saint-Nazaire, hospitalisé en urgence à la cité sanitaire pour apoplexie.
Jippy entendit la voix souriante de Marie commenter par-dessus son épaule.
On ne le regrettera pas outre mesure, celui-là.